Ben, j'ai beaucoup aimé, parce que d'une part, j'ai trouvé très poétique, comme j'ai dit tout à l'heure, un côté enchanteur, ça c'est sûr. Pas de paroles, des chansons, des gens qui n'expliquent pas pourquoi ils vivent là, mais qui visiblement ont l'air contents d'y être. Et qui, vraiment, en dehors des sentiers battus, ben, parlent d'un habitat différent, ben, d'une façon complètement différente. Voilà. J'ai trouvé que le montage, en plus, était extrêmement bien fait, même si je ne suis pas du tout un spécialiste des montages. Voilà.
Alors tu vois, c'est sûrement pas le lieu de dire ça, moi qui regarde pas beaucoup de la pub à la télé, mais je trouve que ce film est une très belle pub pour aider à faire vivre, à sauver, et à sauver cet endroit qui est beau. Alors moi j'ai un papa qui travaillait dans le béton, alors j'aime bien le béton, mais j'aime bien voir pousser des choses dans le béton, et les choses, elles arrivent à pousser dans le béton et sur le béton. Et ouais, j'ai bien aimé ce film, j'ai bien aimé cet endroit, j'aimerais bien y habiter. Et chez moi, dans mon petit coin de ville, il y a aussi quelques arbres. Enfin, ça se fait beaucoup couper, mais on entend des oiseaux quand même à la ville, et on peut y voir aussi pousser des orties et des pissenlits.
Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à faire le film, tout simplement?
Ce film, donc Les Chants de la Maladrerie, je l'ai tourné parce que je vivais dans ce lieu depuis 14 ans et je continuais à tous les jours m'émerveiller devant la beauté de cet endroit. Et à un moment, je me suis dit, fais un film, comme c'est mon métier, enfin, je fais des films. Voilà, et je me suis dit, au bout de 14 ans, trouver ça tous les jours super beau, il faut faire quelque chose.
Alors, il y a une démarche un peu particulière. Tu l'as dit avant la projection, c'est un film participatif. Est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est passé?
Voilà, donc j'habitais dans cet endroit. Donc, tous les personnages du film sont mes voisins. Et en fait, je leur ai fait cette proposition. Je leur ai demandé s'ils désiraient chanter. Donc, évidemment, ça partait sur la base du volontariat. Tout le monde n'avait pas envie de chanter. Et donc, les gens qui ont accepté de jouer dans le film ont choisi leur chanson et ont choisi le lieu dans lequel ils voulaient la chanter. Voilà. Et du coup, j'ai eu envie de faire ça pour revenir un petit peu sur un peu le... Comment dire? Pour être proche un peu de la démarche de l'architecte, puisque ce film est quand même une ode à cette architecture qui mettait l'humain au centre de tous ses projets. Puisque on parle de ce quartier comme une utopie sociale réalisée, ce sont que des logements sociaux où tout le monde a une terrasse ou un jardin, où les immeubles ne font pas plus de 5 étages. Et cet endroit, c'est à Aubervilliers. À Aubervilliers, il y a énormément de tours qui ont été construites dans les années 60 et sur lesquelles on revient beaucoup aujourd'hui. La démarche participative, moi, ça me paraissait important, du fait aussi que ce soit mes voisins et amis. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mon travail. En fait, je suis très mal à l'aise avec l'idée, mais il y a des gens qui le font très bien, mais de capter le réel et de pas poser de gestes. Voilà. Donc là, quelque part, je fais une proposition à mes voisins. Est-ce que tu veux chanter? Oui, c'est toi qui choisis cette chanson et c'est toi qui choisis le lieu où tu veux la chanter. Voilà, on fait quelque chose ensemble. Voilà, c'est très différent que de se poster quelque part et d'espérer qu'on va nous oublier, en fait. Je trouve que c'est difficile d'oublier une caméra. Donc, puisque la caméra est là, elle est là, jouons avec elle. Voilà, c'est un peu mon parti pris.
Du coup, est-ce que vous avez fait beaucoup de rush au niveau des musiques, ou est-ce que c'était spontané et la première prise était la bonne?
Alors, j'ai quand même refait faire. J'ai essayé de pas user les gens, et puis en plus, je me suis rendu compte par moment que la première prise était bonne et que j'avais refait faire plusieurs fois et qu'en fait, on perdait un peu de spontanéité. Mais j'ai quand même refait faire. Les classes Cham ont chanté. Enfin, les classes Cham, donc ce sont les chœurs qui chantent dans le film, ce sont des adolescents. Ils ont en général chanté la chanson 2 ou 3 fois. Voilà. Après, évidemment, c'était un choix de ma part de ne pas travailler avec des professionnels, donc ce n'est pas des acteurs, ce n'est pas des chanteurs. Donc il y a de la fragilité, et ça, j'y tenais aussi. Voilà, je pensais que la poésie viendrait aussi de la fragilité à chanter, que c'est ça qui rendrait ce film humain.
Alors, c'est une question un peu pour les auditeurs, pour qui ils se représentent. Est-ce que tu pourrais... nous faire un petit cours d'histoire sur cette architecture, sur ce bâtiment, ce quartier qui est la Maladrerie.
Alors la Maladrerie, voilà, qui a un nom un peu difficile, c'était un lieu où on mettait les lépreux, les hérétiques et les juifs au XIIe siècle, et ça en a gardé le nom. Dans les années 60, il y avait beaucoup de bidonvilles dans cet endroit. Et au fond, c'est quand le métro est arrivé qu'on s'est dit, oulala, les Parisiens arrivent, il faut qu'on fasse quelque chose pour rendre cet endroit présentable. C'était une mairie communiste, ça l'est toujours, hein, ça fait vraiment partie de la banlieue rouge qu'il y a autour de Paris. Et donc à l'époque, le maire était Jacques Ralite et il a apprécié la proposition de René Gailloustet qui, à ce moment-là, est assez tôt finalement, puisque la construction de la maladrerie s'est faite entre 75 et 85, assez tôt, René Gailloustet s'est aperçu que ces tours qui pourtant rendaient service aux gens qu'on construisait justement parce qu'il y avait beaucoup de bidonvilles, qu'il y avait de l'immigration, qu'il fallait trouver des solutions pour héberger les gens. Ça a vraiment commencé dans les années 60, c'est poussé de tours. Elle s'est rapidement rendue compte que en fait, c'était pas très agréable d'y vivre, que c'était un peu des cages à poules, quoi. Voilà. Donc vite, rapidement, elle s'est positionnée par rapport à ça et à ses tours. Donc les tours, en général, les appartements sont tous pareils. Elle a proposé des logements comme à la Maladrerie où tout le monde a une terrasse ou un jardin, où les immeubles ne font pas plus de 5 étages et où tous les appartements sont différents et où les espaces publics sont verts et piétons. Voilà. Donc c'est elle aussi qui a un peu pensé l'urbanisme qu'il y a autour des bâtiments et elle ne voulait pas de voiture pour que les enfants puissent jouer.
Durant le film, on retrouve deux scènes où on a des plans zénithaux. Et du coup, je voulais savoir, c'était quoi la signification de ces plans ?
Les plans zénithaux, c'est-à-dire les plans qui sont au-dessus. Alors, je pense que c'était important. C'est pas que j'aime... Donc, c'est des plans que j'ai fait avec un drone. C'est pas que j'aime la technologie et forcément le drone qui peut être un peu lourd dans un film. Mais là, vraiment, en fait, quand on la survole, la cité, on se rend compte qu'elle a une forme complètement folle. Voilà. Et donc, ça me paraissait important de le montrer, ça. Parce que c'est vrai que quand on la survole, la cité, on voit qu'il y a des triangles, des ronds, que c'est vert, qu'il y a des terrasses plantées, enfin. Et ça, en restant au sol, on l'aurait peut-être moins senti ou pas senti.
Les personnes chantent une chanson qu'ils ont choisie. Qu'est-ce que, d'après toi, ça apporte de particulier, ce parti pris chansonnier ? Parce que les gens ne s'expriment pas autrement que par la chanson.
Alors en fait, évidemment... J'ai tourné ce film, c'était l'année des présidentielles, on avait eu les attentats à Paris, c'était très lourd et il y avait une ambiance assez pénible. Et j'avais envie aussi, je voulais évoquer cette architecture, mais parler du multiculturalisme qu'il y a en France, de façon un peu jolie, quoi. J'avais envie de quelque chose un peu léger. Et du coup, j'avais pas du tout envie que ce film ait une approche trop sociologique. Oui, il y a tant de gens qui viennent du Mali ou qui aient des histoires sur l'immigration. Voilà, je crois que c'était un moment où on en parlait trop mal. Et donc, je me disais que la chanson serait une façon un peu poétique de se présenter. Voilà. Qu'on se sortirait avec ça de la dimension sociologique pour atteindre la poésie.
Le fait qu'il joue un peu. Qui jouent parce qu'il y a une vraie mise en scène dans leur quartier, ils choisissent l'endroit et ils chantent. Est-ce que justement ça apporte quelque chose en plus sur une compréhension de ce qu'est le quartier ou la vie dans le quartier ?
Je l'espère. Je l'ai pensé comme ça. Après, moi, j'essaye toujours dans mes films de trouver un axe un peu décalé parce que c'est aussi ça, être un auteur. À un moment, il n'y a pas que le sujet, il y a aussi la façon dont on l'aborde. Moi, je fais du cinéma, hein. Donc je fais du cinéma. Donc la question de la forme, elle est très importante pour moi, autant que le fond. Je pense que finalement, quand on demande à quelqu'un de choisir une chanson, il ne choisit pas une chanson de façon anodine. On choisit une chanson parce qu'elle nous touche, parce qu'elle peut nous représenter. Et ça a assez bien marché. Voilà. Et en fait, le projet de l'architecte étant tellement humaniste, j'ai voulu remettre l'humain au cœur de ce film pour raconter cette architecture et j'ai voulu un peu le sublimer, révéler un peu la beauté de ces gens et que la différence entre ces gens était aussi belle. Voilà, donc il y a un moment, il y a un you-you d'une femme kabyle, il y a une vieille dame qui veut pas de visite, il y en a un autre, il veut pas tendre la main, il veut pas. Enfin, chacun a choisi et je trouve que finalement les gens, ça parle d'eux, les chansons qu'ils ont choisies parlent d'eux. C'est bien.
Essayer de sublimer ce lieu, est-ce qu'au final c'est pas essayer de cacher, de nier un peu les choses un peu moins jolies qui se passeraient pas loin, quoi ?
Alors on peut voir ça comme ça. Après, il faut aussi se rendre compte que donc on est dans le 93, que c'est un territoire qui est sans arrêt montré du doigt, qu'on ne présente généralement qu'avec des dealers, des mecs floutés, avec des cagoules qui font très peur. Donc évidemment, moi j'ai voulu jouer le contre-pied total de ça. Donc je propose une balade poétique dans une cité. Évidemment que je voulais rejeter cette image, parce que le 93 aussi regorge de talents, de gens qui ne sont pas du tout des voyous, qui ne sont pas des racailles. Alors oui, il y a de la délinquance, puisqu'il y a de la misère, mais je trouve qu'on fait suffisamment le focus sur ces gens dans les médias pour que moi, habitante, je ne fasse pas la même chose. Et ça, évidemment que c'est politique comme choix.
Il y a dans ce film, on remarque effectivement avec les plans en contre-plongée, c'est vraiment c'est une respiration, quoi. C'est hyper vert, c'est plein d'arbres, ça change réellement de l'architecture urbaine de la banlieue parisienne.
Mais c'est vrai, mais c'est en ça aussi que j'admire, encore une fois, je reparle de l'architecte qui était écolo à un moment où on ne parlait pas d'écologie. En 1975, il n'y avait pas beaucoup de... On en parlait très peu. Et elle avait déjà compris que ça rendait l'air respirable, que c'était beau... Donc elle était un peu en avance, comme je disais tout à l'heure pendant le débat. Moi, j'enseigne dans une école d'architecture. Aujourd'hui, on ne fait que parler d'éco-quartier, de nature dans la ville, parce qu'on se rend compte que toutes ces villes avec que du béton, on étouffe, quoi, qu'on a besoin d'espace vert. Et elle l'a fait avant. Voilà. Et c'est vrai que quand on rentre dans le lieu, on entend des oiseaux. Et que, bon, j'ai choisi mon moment. J'ai tourné au printemps, au moment où la nature explose. Parce que j'avais envie qu'on le sente bien, mais c'est vrai. Enfin, c'est hyper agréable quand il fait beau à la Maladrerie au printemps, on est hyper bien. On oublie complètement qu'on est dans le 9-3.
Lors du débat, on disait que ce lieu, c'était un peu une sorte d'îlot dont on ne sort pas. Et est-ce que vous pensez que ça ne peut pas faire entre guillemets, du communautarisme, le fait que les gens vont beaucoup rester ensemble et qu'ils ne vont pas beaucoup pouvoir s'ouvrir au monde, en fait ?
On peut le voir comme ça, mais en même temps, du communautarisme, de toute façon... Je veux dire, c'est pas les gens qui ont choisi, c'est l'État qui a créé des ghettos. Donc ça. Et puis quelque part, comme je disais, j'ai pas fait d'école de documentaire, j'ai fait les beaux-arts, donc j'ai un rapport très plastique à l'image. J'avais envie de ce huis clos, qu'on arrive dans un monde un peu merveilleux, un peu bizarre. Voilà, c'est pas. Le réel, je sais pas ce que c'est, donc je fais des films. Et est-ce qu'ils sont en... Moi, je crois pas. Je crois que justement, on a vu qu'il y avait des Antillais, qu'il y avait des Kabyles, qu'il y avait des Français, qu'il y avait des Polonais. Donc, est-ce que... Je sais pas. Non, c'est pas du coup du communautarisme. Il y a un beau mélange.
Moi, j'ai envie de rebondir là-dessus. Peut-être plutôt que du communautarisme, c'est ce qui a voulu être créé, c'est une utopie sociale, en fait. Et donc, effectivement, est-ce qu'une utopie est forcément restreinte, en fait ? Et la question, c'est sur quoi repose, à l'origine, dans la tête de l'architecte, cette utopie sociale ? Et est-ce que c'est transposable, exportable, réemployable aujourd'hui ?
Est-ce que ce serait encore possible aujourd'hui ? Tout est fait pour que ce soit plus possible. On a des telles normes de sécurité aujourd'hui que je ne suis pas sûre que ce soit possible de refaire quelque chose comme ça. Et là, l'État est en train de nous faire avaler un truc. Pas des moindres, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus faire appel à des architectes pour faire des logements sociaux. Donc ça sera fait tout de suite, directement, par des gens des bâtiments qui vont faire des tours, des carrés, tous les mêmes, et qu'on va empiler. On ne fait même plus appel à un architecte. Or, un architecte, c'est aussi une pensée de l'habiter. Enfin, c'est quand même pas rien, quoi, de réfléchir à ça. Et c'est important d'y réfléchir. Voilà, donc là, on est en train de perdre ça. Donc, cet endroit est rare. D'ailleurs, il est classé au patrimoine de l'architecture du XXe siècle. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire de choses comme ça.
Moi, je me demande, c'est sur quoi repose l'utopie ? Parce qu'en fait, l'utopie ne peut pas reposer sur la structure matérielle de l'habitat. Il y a autre chose, en fait, qui est mobilisée.
L'utopie, c'est quelque chose vers lequel on tend, qu'on n'atteint pas forcément. L'utopie, quand même, se dire... Pour les pauvres, parce que qui a droit à des logements sociaux ? Les pauvres. Se dire que les pauvres ont le droit d'avoir tous une terrasse ou un jardin, d'habiter dans une cité jardin, dans une cité qui est verte, sans voiture, dans le 9-3, c'est déjà une utopie sociale. dans un endroit où il y a 50 ateliers de logements pour artistes, avec des logements sociaux, donc ça veut dire qu'il y a de la mixité. Ça, c'est quand même une belle utopie. C'est ça, elle est là, l'utopie.